Bonsoir à tous. Une grève des femmes en Suisse, débrayage et manifestation pour demander l'égalité des droits et des salaires où là aussi, elles gagnent 20% de moins que les hommes. Les élections européennes sous influence russe, un rapport de Bruxelles confirme des tentatives de peser sur le dernier scrutin. Elle ne veut plus être dans un parti, mais Marion Maréchal a envie de faire entendre sa voix sur la scène politique française. Elle sort du silence et prend pour prétexte le premier anniversaire de son école de sciences politiques. Deux rendez-vous ce week-end sportif. D'abord la finale du top 14, demain, Toulouse, Clermont. Un retour au premier plan pour ces grands clubs. Et culturel, enfin, avec Vox, le salon des livres audio, ils séduisent un public de plus en plus large.
France Inter. 15h24 en Suisse, la moitié de la population était appelée à cesser le travail cet après-midi.
15h24, les femmes invitées à débrayer car c'est l'heure théorique à laquelle elles commencent à travailler gratuitement chaque jour. Elles qui sont payées 20% de moins que les hommes en moyenne. Les cloches ont sonné à Bienne, la cathédrale a été habillée de rose à Lausanne et une marche violette a traversé le pays. 30 ans après leur dernière grève historique pour l'égalité, les Suissesses ont enchaîné les actions aujourd'hui. C'est un reportage à Genève de Jérémy Lanche.
Patriarcat, t'es foutu ! Les femmes sont dans la rue !
Travail égale salaire, si c'est pas oui, c'est non. Libérer, délivrer, à chaque manifestante son slogan. Elles sont plusieurs milliers à s'être donné rendez-vous sur la plaine de Plainpalais, en plein centre de Genève, pour réclamer l'égalité réelle homme-femme, à l'image de Vanessa, mobilisée depuis ce matin
9h. Le papa va s'occuper de ma fille, puis on va continuer la marche toute la journée. Pour mes droits, pour ma fille, pour ce qui va se passer plus tard, pour faire bouger les choses.
Comme beaucoup de femmes, Rachel a arrêté le travail à 15h34 aujourd'hui, heure à laquelle elle n'est théoriquement plus payée par rapport à ses collègues hommes. Ils gagnent près de 20% de plus que les femmes en Suisse, mais ce n'est pas la seule raison qui l'a poussée à défiler.
Je raconte toujours un peu la même anecdote. Je terminais tard le boulot, je devais prendre le train, puis il faisait 35 degrés ce jour-là. J'étais tout habillée en pantalon long et puis avec des manches, et puis mon collègue il me dit « mais t'es dingue, il fait chaud ». Puis je dis « mais tu sais, moi le matin, je réfléchis à ce que je mets comme vêtement si je sais que je dois prendre le dernier train ».
Souvent cité en exemple pour la vigueur de sa démocratie, la Suisse, c'est le paradoxe, est à la traîne en ce qui concerne les droits des femmes. Elles n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1971. Le congé maternité date, lui, de 2005 et le sentiment d'être discriminée n'a pas d'âge. Camilla, 10 ans.
Tes garçons, à l'école, ils trouvent qu'on n'est pas très intelligente. Mais en fait, on peut prouver que c'est faux et on peut faire la même chose que les hommes.
Et les cortèges continuent, des actions sont prévues partout en Suisse, jusque dans la soirée. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Et en France, le droit pour toutes les femmes à bénéficier d'une PMA, une procréation médicalement assistée, bouscule la majorité En Marche. Le délégué général du mouvement macroniste a promis la liberté de vote aux parlementaires sur les lois bioéthiques. Édouard Philippe vient de promettre d'y intégrer l'ouverture de la PMA à toutes dans le projet débattu fin septembre à l'Assemblée. Une liberté de vote affichée le jour où Agnès Thiel, députée LREM, annonce sa convocation le 25 juin devant la commission des conflits du parti. Ses propos contre la PMA font polémique, elle risque l'exclusion. Hors d'un parti mais pas sortie de la politique, Marion Maréchal a profité du premier anniversaire de son école de sciences politiques, l'ICEP à Lyon, pour se rappeler au bon souvenir des militants et des électeurs. Et Maxence Lambrecq, si la nièce de Marine Le Pen ne semble pas vouloir revenir dans l'écurie familiale, pas question de s'interdire d'exister en politique.
Cela démarre toujours avec cet avertissement formel.
Nous ne sommes pas là pour parler de politique électorale ou politicienne.
Marion Maréchal commence donc par une déclaration d'amour.
Je suis à l'ICEP pour longtemps. L'ICEP pour moi est le projet d'une vie, d'une certaine manière.
Une école qui n'accueille pour l'instant à temps plein que 12 étudiants et 2 salariés, mais elle compte s'en servir pour gagner en crédibilité.
Beaucoup de Français estiment qu'un homme ou une femme politique qui ne s'est pas confronté au monde du privé est forcément déconnecté du réel.
Et hors micro, elle ajoute que les partis politiques sont des machines à broyer l'intelligence. Oubliez donc les précautions du début, l'ex-député FN veut profiter, je cite, de la débâcle de la droite.
Si à un moment donné j'ai le sentiment que je peux contribuer à accélérer ou cette clarification ou cette recomposition, pour créer des passerelles, je le ferai, oui, je ne m'interdirai pas de le faire.
Revenir la démange, mais elle ne sait ni où ni comment. Alors en attendant, elle répète ses classiques, là contre la PMA pour toutes.
Le fait que cette réforme puisse nous conduire demain à la marchandisation de l'enfant, ça veut dire le fait que que moi, en tant que femme, mon corps puisse être considéré comme un objet de contrat est une chose qui me terrifie. Voilà.
Et elle ne s'interdit pas de redescendre dans la rue à ce sujet pour entretenir la flamme et rester proche de cette droite hors les murs.
Maxence Lambrecq à Lyon. Et quand la politique tourne à l'affaire d'espionnage, la Russie aurait tenté de peser sur les dernières élections européennes. Conclusion d'un rapport de Bruxelles, 3 semaines après le vote. Bonsoir Pierre Benazé.
Bonsoir.
Notre correspondant européen. Donc, il n'y aurait pas eu de campagne massive de manipulation, mais des fake news distillées ici et là, Pierre.
Oui, effectivement, l'incendie de Notre-Dame est dû à des réfugiés, Georges Soros orchestre la chute du chancelier Sébastien Kurz, 1 million de Lettons boycottent les élections européennes, les services secrets allemands et espagnols s'attaquent à l'extrême droite autrichienne, on pourrait continuer encore longtemps, ce n'est qu'un minuscule florilège des infox que l'Union européenne a relevé durant les mois et les semaines précédant les élections, il y en a pour 574 pages sur le site EUVS Disinfo, les Européens craignaient que se reproduisent les mêmes tentatives d'influence et de propagande que lors de la campagne des dernières élections aux États-Unis, elle estime que le nombre de cas de désinformation liés à des acteurs malveillants localisés en Russie a doublé depuis janvier. Même s'il y a eu une activité continue et soutenue de fausses nouvelles de sources russes, la Commission européenne se félicite de ce que la surveillance renforcée a permis de contrecarrer de nombreuses infox et d'empêcher, je cite, un big bang de la désinformation. Mais de toute façon, si l'on en croit les fameux acteurs malveillants russes, les commissaires européens se sont fatigués pour rien puisque les États-Unis dictent la politique de l'Union européenne ou bien, encore mieux, le Parlement européen est un antre de la corruption, voter ne sert à rien.
Merci Pierre Benazé en direct ce soir de Bruxelles. Une cyberattaque et là ce sont 1 millier de salariés au chômage technique en Belgique. Depuis mardi, l'équipementier aéronautique ASCO installé à Zaventem près de Bruxelles. Cet équipementier a fermé. Les autres sites d'ASCO aux États-Unis, au Canada et en Allemagne ont eux aussi été mis à l'arrêt à cause de ce piratage informatique. Le groupe fournit des pièces d'avions pour Airbus, Boeing, Bombardier ou encore Lockheed Martin. Les accrochages en mer d'Oman tournent à l'affrontement verbal entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump a tweeté ce matin que les attaques contre les deux pétroliers étaient signées de Téhéran. Les Iraniens démentent et accusent de leur côté leurs ennemis d'être derrière ces incidents. Selon le président Rouhani, les États-Unis représentent une grave menace à la stabilité dans la région et dans le monde.
18h08 sur France Inter, la suite du journal d'Amélie Perry avec un remède à 70 millions d'euros pour les urgences.
La ministre de la Santé Agnès Buzyn promet donc 70 millions pour apaiser la colère. Cela fait 3 mois que des services sont en grève. Les soignants réclament davantage de moyens et des hausses de salaire. Sur l'enveloppe débloquée, une grande partie servira à augmenter une prime spéciale pour les urgentistes d'une 100 euros par mois, assez loin de la revalorisation demandée par les syndicats. Lui, le prix du gaz va baisser. Information confirmée par le gouvernement. Les tarifs réglementés vont reculer de 6,7% le 1er juillet grâce à une forte baisse des cours mondiaux depuis quelques mois. Cette EDF, entre autres, qui installera et exploitera les éoliennes en mer du Nord au large de Dunkerque. François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, en a fait l'annonce ce matin. Le parc est confié à un groupement donc entre EDF Renouvelable, Innogy et Enbridge. Il doit permettre de fournir 500 000 foyers à partir de 2026. François de Rugy revoit également à la hausse la part de l'éolien offshore de 700 MW à 1 gigawatt. Réduire les émissions polluantes, cela passe également par une agriculture plus verte. Aujourd'hui, elle produit 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et parmi les pistes à l'étude, le stockage du carbone dans le sol. Dans un projet inédit, Sophie Becherel, des scientifiques détaillent le procédé. Cela passe par des changements de certaines pratiques agricoles.
Naturellement, les sols stockent du carbone et compensent une partie des gaz à effet de serre émis par les hommes. Si on parvient à augmenter légèrement de 4 pour 1000 cette capacité de stockage chaque année, une partie des émissions sera alors compensée. Suivant les cultures, la France a une marge de progression, détaille le président de l'INRA, Philippe Mauguin.
On a des potentiels de croissance, en particulier dans le secteur des grandes cultures, les céréales, les oléagineux, où les taux de carbone sont relativement plus faibles que dans les prairies ou dans les forêts. Par exemple, quand on a fait du blé et on va faire ensuite du colza ou de l'orge, on peut avoir des sols nus ou au contraire avoir une couverture des sols. La couverture des sols permet d'enrichir le taux de carbone dans les sols.
L'INRA recommande 9 pratiques vertueuses. Parmi elles, laisser en prairie permanente des champs qui actuellement sont fauchés ou, mesure gratuite, mettre de l'herbe entre les rangs de vignes ou laisser les vaches plus longtemps au pré. Pour être encore plus efficace, la réponse de Laure Bamière, économiste à l'INRA de Grignon.
Il faut
impérativement généraliser les cultures intermédiaires, donc couvrir les sols le plus possible, et mettre en œuvre l'agroforesterie intraparcellaire, donc c'est planter des arbres sur les parcelles, et également augmenter la part des prairies temporaires dans les successions de grandes cultures.
Ces dernières mesures coûteront de 55 à 120 euros par hectare pour les agriculteurs, mais les services rendus au climat pourraient alors s'accompagner de mesures incitatives financées par la PAC, la politique agricole commune.
Avant de passer à notre conseil culturel du vendredi soir, un peu de sport. Et si l'on parle beaucoup de foot en ce moment avec le mondial féminin, ce week-end, les amoureux du rugby sont à l'honneur pour la finale du top 14. Une affiche de rêve, Toulouse-Clermont au Stade de France. On va suivre ça avec vous, Vincent Pellegrini. Bonsoir.
Bonsoir, Amélie.
Alors, c'était quasiment un classico avant la lente déliquescence de Toulouse, le club le plus titré du rugby français qui n'a pas touché, Vincent, le bouclier de Brennus depuis 7 ans.
Oui, 7 ans de disette, effectivement, pour le Stade toulousain. Dernière finale et dernier titre. En 2012, face à Toulon, le Stade toulousain a ensuite connu des années douloureuses entre problèmes financiers et résultats sportifs médiocres. Il a su se redresser grâce notamment à un recrutement réussi et une politique de formation payante. Le Stade toulousain en a récolté les fruits cette saison. Au fil des mois, l'équipe a façonné un jeu séduisant et efficace. Elle a terminé première de la saison régulière devant Clermont et atteint les demi-finales de la Coupe d'Europe. Voilà les Toulousains de retour au premier plan avec l'espoir demain soir de dérégler l'horlogerie clermontoise. Leur entraîneur Hugo Mola.
On a vraiment envie de jouer ce match de rugby contre une super équipe qui joue un rugby enthousiasmant aussi, avec des fulgurances et des premiers temps de jeu autour de la programmation qu'elle est capable de faire vraiment redoutable. Nous, à ce niveau-là, on n'est pas là. On n'est pas au niveau de Clermont sur ça. Après, on sait que nous, quand il y a un ballon qui traîne, quand il y a un peu de désordre, quand c'est un peu le bordel sur le terrain, parfois, ça nous va bien. Mais sur le jeu ordonné, un peu comme le Leinster, je pense que Clermont est un petit en avance.
Les Irlandais du Leinster qui avaient éliminé le Stade toulousain en Coupe d'Europe. C'est la cinquième fois que le Stade toulousain et Clermont s'affrontent en finale du championnat. Les Toulousains se sont toujours imposés. Et si cette série se poursuit, ils remporteront donc demain soir leur 20e titre de champion de France.
Toulouse, Clermont, coup d'envoi à 20h45 demain au Stade de France à Saint-Denis. C'est du rugby masculin, on va le préciser, hein, Claire.
Oui, faut le dire. On termine, Amélie, avec la prescription du service culture de France Inter.
Et on vous lit des histoires ce soir, car ce n'est plus réservé aux enfants avant de dormir. Ce week-end à Montreuil, en région parisienne, se tient Vox, le festival urbain de lecture à haute voix et son salon dédié aux livres audio. Ce mode de lecture séduit de plus en plus, Ilan Amor Youssef.
Une croissance de 50%, quel secteur peut en dire autant? Une étude commandée par le syndicat national de l'édition il y a 2 ans dresse un portrait inattendu des lecteurs de livres audio. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. L'éditrice Paul Duboucher, directrice du livre audio chez Gallimard.
C'est pas du tout ni des malvoyants, ni des personnes très âgées, etc., etc. C'est majoritairement des personnes qui travaillent, qui sont en pleine maturité professionnelle. Ce sont de bons lecteurs, des gros lecteurs. Autre idée reçue battue en brèche, ce n'est pas une alternative au livre papier, mais un complément. Et donc c'est vraiment la tranche 20-50 ans qui écoute du livre audio.
Le choix est de plus en plus vaste, la qualité des lectures souvent excellente. Fabienne Sintès, la nôtre, celle de France Inter, se souvient de Virginie Despentes en audio.
Moi, je me souviens très bien d'un voyage aux États-Unis. Je suis partie avec les 3 Vernon Subutex. Et j'ai lu le premier et ça m'a tellement accroché que je ne pouvais pas m'en sortir. J'avais le deuxième qui était là, sauf que j'avais de la route à faire. Et aux États-Unis, la route est longue. Du coup, j'ai téléchargé l'audiolivre. Et là, c'était formidable, mais j'aurais pu traverser les États-Unis, revenir et repartir. La voix du comédien était exactement telle que j'imaginais Vernon Subutex.
Il a envie d'un café serré, d'une cigarette à filtre jaune. Il aimerait se griller une tranche de pain et déjeuner en parcourant les gros titres du Parisien sur son ordinateur.
Le comédien, c'était Jacques Frantz, la voix française de Robert De Niro. Car oui, le livre audio, ça peut être très glamour. Pour cet automne, Gallimard annonce L'Amant de Marguerite Duras, lu par Juliette Binoche.
Quand même, Vox, le festival de lecture à haute voix tout le week-end à Montreuil dans le 93.
Merci beaucoup pour ce journal, Amélie Perrier.